il est 9h20.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Pierre nous appelle de Saint-Léonard de Nobla. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Merci France Inter de me donner la parole. Voilà mon interrogation. Un de vos invités dit qu'il n'y avait aucune urgence juridique. Or, il ne doit pas être au courant de l'actualité. Il y a quelques jours, et quelques jours à peine, le Parlement a voté un amendement sur une loi sur, je crois que c'est sur la sécurité, créant une prescription de 12 ans pour des faits tels que ceux reprochés à M. Fillon, et ce qui fait que sans une réaction d'urgence de l'appareil judiciaire, M. Fillon ne pouvait plus être poursuivi, il ne pouvait plus y avoir d'enquête sur son cas. Et donc il y a bien effectivement une très grande urgence judiciaire.
Apparemment, effectivement, cette loi et la promulgation imminente de cette loi a précipité la décision du parquet financier. On a évoqué cela lundi avec Benoît Hamon qui n'était pas au courant de la disposition. On lui demandait s'il avait voté ou non cet amendement, Jean-Yves Le Borgne.
Mais bien entendu que je connais cette loi qui n'en est d'ailleurs pas encore une officiellement, juridiquement, mais qui va le devenir. Et si ce monsieur a raison de dire qu'il y avait peut-être un intérêt juridique à l'ouverture de l'information, c'est-à-dire à la saisine des juges d'instruction, en revanche, je maintiens qu'il n'y avait aucune urgence à la convocation de qui que ce soit dans le cadre de la procédure. C'est là la différence. En fait, que demande-t-on aux juges ? On leur demande de la neutralité, de l'impartialité. Alors, c'est souvent la quadrature du cercle, parce que quand est-on neutre, quand est-on impartial et quand ne l'est-on pas ? Autrement dit, ils avaient là, au fond, un choix, pas entre l'impartialité et la partialité, mais entre un peu plus ou un peu moins de neutralité.
Question d'opportunité.
Je crains qu'il n'ait choisi la solution qui était la moins neutre.
Antoine Garapon.
Alors, parmi mes collègues, il y a une expression, c'est qu'on dit la date de convocation, c'est une machine à claque. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, c'est pas bien. Ouais. Alors, soit c'est avant et on dit « Ah, ça fausse tout », soit c'est après, on dit « Mais vous n'avez rien fait ». Donc, il me semble que là, nous sommes dans une configuration où il n'y a pas de bonne solution. Et il y avait effectivement, notre auditeur a tout à fait raison de le rappeler, ce couperet de la loi sur la prescription qui ne fait pas bon effet, là encore une fois de plus, où on a l'impression que les députés cherchent à… Bon, et donc, la réponse de la justice a été, encore une fois, une réponse régulière, ferme, mais régulière.
Catherine nous appelle de Brest. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi je voulais savoir si François Fillon n'aurait pas pu bénéficier d'immunité parlementaire à l'image de Marine Le Pen qui elle a utilisé ce moyen-là pour ne pas répondre aux juges.
Pour ne pas répondre aux policiers, en l'occurrence. Hein,
oui, aux policiers.
Mais pour les juges, c'est pareil. Jean-Yves Le Borgne.
Disons clairement ce que sont les choses. L'immunité parlementaire signifie qu'une mesure de contrainte, c'est-à-dire un placement en garde à vue, une incarcération, ce qui en l'espèce ne me paraît pas être
une mesure de privation de liberté.
Ou privation de liberté, un contrôle judiciaire,
de la Constitution,
voilà, ouais. N'est pas possible à l'égard d'un parlementaire. C'est ça, l'immunité parlementaire. En revanche, rien n'autorise au nom de l'immunité un parlementaire, qu'il soit parlementaire européen ou national, à ne pas répondre à une convocation. Il peut le faire, en ce sens que s'il le fait, comme l'a décidé notamment Marine Le Pen, on ne peut pas répondre par une mesure coercitive qui consisterait à le faire venir entre deux gendarmes. C'est tout. Mais l'immunité parlementaire, lorsque l'on est un citoyen, comme l'est M. Fillon, respectueux des institutions, on ne va pas brandir cette immunité parlementaire pour refuser de répondre à une convocation.
Mais certains auditeurs en tirent argument pour dire « Mais si un homme politique est injusticiable comme les autres, pourquoi bénéficie-t-il de l'immunité parlementaire ?» C'est aussi une question…
Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que justement, l'immunité parlementaire, c'est le sens de la séparation des pouvoirs. C'est l'impossibilité pour un pouvoir judiciaire, pour autant qu'il existe un pouvoir judiciaire, mais ça c'est une autre question dont nous n'avons sans doute pas le temps de débattre ce matin, mais l'impossibilité pour le pouvoir judiciaire de placer sous sa férule le pouvoir exécutif.
Antoine Garapon.
Ou législatif.
C'est simplement pour justifier la liberté de parole et de façon à ce qu'on ne puisse pas tourmenter ou inquiéter un parlementaire, comme d'ailleurs un avocat à l'audience, pour les propos qu'il tiendra. Et donc c'est pour garantir une totale liberté dans la délibération démocratique.
Est-ce que vous trouvez, Antoine Garapon, qu'il y a eu parfois des abus en matière de proclamation d'immunité parlementaire ou d'utilisation d'immunité parlementaire de la part de certains élus ?
Non, c'est-à-dire que jusqu'ici, nous avions des affaires plutôt de droit commun. Et aujourd'hui, on a une affaire qui a des conséquences, j'insiste bien sur le mot, des conséquences proprement politiques. Ce que je voudrais répondre à notre auditrice, c'est que les régimes d'immunité des parlementaires européens et des parlementaires nationaux n'est pas le même. Et qu'il y a une restriction beaucoup plus grande de qui protège les parlementaires européens.
Réflexion d'un auditeur aussi sur l'appli France Inter, Alexandre. Il est faux de dire qu'il est rare de mettre en examen un individu 15 jours après la saisine du juge. Je suis avocat, certains de mes clients ont été mis en examen le jour de la saisine du juge, lors de l'interrogatoire de première comparution, Jean-Yves Le Borgne.
Ça, ce sont des cas particuliers lorsque quelqu'un est arrêté, déféré, comme on dit, devant le juge d'instruction, c'est amené immédiatement, et que bien évidemment la procédure s'enclenche. Mais dans des affaires complexes comme celle qui nous préoccupe, mais si, mais vous trouvez que c'est ça.
Pas si complexe, dit Thomas Legrand.
Pas si complexe. D'abord.
Devoir démontrer que Madame Fillon a vraiment travaillé, c'est peut-être pas si complexe. Ça ne demande peut-être pas des mois et des semaines. Il n'y a pas de fausses factures, il n'y a pas de compte à l'étranger. C'est pas si complexe.
Donc personne ne s'est avancé, contrairement à ce qu'a laissé entendre François Fillon lors de sa première intervention télévisée, personne ne s'est avancé devant la presse pour dire si, je l'ai vue travailler, elle était à l'œuvre, j'étais en contact avec elle, etc.
Regarde avec une extraordinaire suspicion les individus favorables à une justice rapide, c'est-à-dire expéditive.
Rapide, Vous dites que c'est simple. Simple. Je dis simplement qu'il y a des tas d'émissions de télévision dans laquelle, enfin plusieurs émissions de télévision dans laquelle elle a témoigné en disant je n'ai jamais travaillé, je ne travaille pas, voilà.
Si je vous dis par exemple que le délit de détournement de fonds publics n'est pas applicable à un parlementaire, vous allez me dire que c'est simple aussi.
Pas du tout.
Voilà une question.
Là, il y a un problème juridique complexe.
Ce que je crois aussi, c'est que d'ici quelques mois, quelques années, je ne sais pas combien de temps cette affaire mettra à se résoudre, on découvrira que juridiquement, elle était éminemment fragile, mais il sera trop tard pour se préoccuper des conséquences qui s'inscriront dans le passé.
Vous avez un regard là-dessus, Antoine Garapon ?
Oui, je suis pour une justice effective, qui intervient dans un temps pertinent, un temps social et politique pertinent. Et là encore, je crois que cet auditeur a raison, le traitement normal de tous les prévenus devant la justice française ressemble plus à celui de M. Fillon qu'à ce qui se passait auparavant, où on laissait les affaires. La manière de faire traîner une affaire
Jacques
étant
Chirac
la meilleure...
Jacques Chirac n'a
jamais été condamné. Bien sûr, et Charles Pasqual a été très longtemps après.
Robert nous appelle de la Drôme. Bonjour Robert.
Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci pour cette émission avec un point de vue technique. Voilà, j'ai une question toute simple, c'est comment le parquet financier décide-t-il de s'autosaisir ? Et une question annexe, comment se fait-il qu'il ne s'autosaisit pas alors que Internet croule de dénonciations avec des pétitions d'associations de maires ruraux sur le patrimoine de Macron, ses défauts de déclaration, les soupçons de détournement d'argent de Bercy ? Comment ça se fait que le parquet financier ne s'autosaisit pas ?
Il faut se méfier d'Internet aussi, et puis bon, il y a des choses, mais effectivement, c'est une interrogation. Antoine Garapon.
Le parquet national financier a été créé précisément pour gérer poursuivre dans ces cas qui visent des personnalités et donc qui demandent une diligence particulière. Alors, il a, comme tous les parquets de France, il a l'initiative des poursuites, de déclencher l'action publique, ce qu'il a fait tout à fait légitimement.
Vous m'inquiétez beaucoup, M. Garapon, quand vous dites que le parquet national financier a été créé pour poursuivre des personnalités. C'est pas du tout dans sa compétence. Il a une compétence matérielle et pour répondre à notre auditeur, le parquet, qu'il se soit le parquet national financier ou n'importe quel parquet, a un droit qui s'appelle l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il poursuit quand il l'estime opportun et qu'il s'abstient quand il l'estime opportun.
Et alors ?
C'est ça qui fait la différence.
Oui,
mais le parquet national financier, à travers ce que dit M. Garapon, dont les analyses sont toujours pertinentes, qu'il aurait été créé pour poursuivre des personnalités.
Il a été créé après une affaire qui a eu un certain retentissement, qui est l'affaire Cahuzac, en l'occurrence. Thomas Legrand.
Pourquoi il n'est pas opportun d'ouvrir une enquête sur Emmanuel Macron dans ce cas-là ?
Vous me demandez ça, moi, je ne suis pas le parquet national financier. Demandez au parquet pourquoi il considère, au nom de l'opportunité, dans certains cas, qu'il ne faut pas poursuivre certaines choses.
Oui, et puis parce que tous les parquets reçoivent dans les affaires de droit commun comme dans les autres, et ils sont inondés de dénonciations plus ou moins malveillantes ou calomnieuses. Il a l'initiative des poursuites, de déclencher l'action publique, il l'a fait, et si il devait y avoir des faits consistants qui lui étaient fournis, il pourrait aussi déclencher une enquête contre M. Macron.
Oui, enfin, on ne peut quand même pas dire qu'une absence de poursuite soit une déclaration d'innocence. L'opportunité, c'est de ne pas poursuivre alors même qu'il y aurait éventuellement une infraction.
Ah.
C'est une définition juridique.
La présomption d'innocence s'applique...
Ah oui, mais nous sommes dans le cadre du soupçon.
Oui. Ça veut dire que vous voyez peut-être une intention politique à poursuivre ou ne pas poursuivre ?
Je ne dis pas cela. L'opportunité, c'est le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre, alors même qu'il y aurait des éléments susceptibles d'une poursuite. L'Allemagne, par exemple, a un système de poursuite automatique. Le procureur en Allemagne n'a pas le choix de ne pas poursuivre, il n'a pas ce droit, il l'a en France.
Alors, je voudrais placer la fin de votre débat, de notre débat, sur davantage sur le terrain politique. Vous avez parlé de troubles tout à l'heure créés par la décision des magistrats, Jean-Yves Le Borgne. Est-ce que le trouble ne vient pas d'abord et avant tout de la déclaration de François Fillon hier midi, de cette théâtralisation, de cette dénonciation d'un assassinat politique ? Après tout, cette convocation en fin de mise en examen aurait pu être banalisée par un simple communiqué. Est-ce que ça n'est pas justement les précédentes déclarations de François Fillon disant « si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat, ma candidature n'ira pas au bout » qui a créé ce trouble et cette dénonciation très, très vigoureuse dans la bouche de François Fillon.
Écoutez, moi je n'ai pas qualité pour justifier ou invalider les réactions de François Fillon qu'il assume lui-même. Ce que je dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le redis, c'est que ce choix de rapidité dans l'espace temporel de la campagne présidentielle sans nécessité procédurale est le choix d'une conséquence politique. Je ne dis pas que les juges ont une finalité politique et que c'est un complot. Je dis qu'ils avaient le choix entre une abstention qu'on leur aurait reprochée et une action qu'on leur reproche aussi.
L'abstention, c'est la fameuse trêve judiciaire.
Oui, c'est ça. Mais en réalité, je crains qu'ils n'aient choisi l'option la plus perturbatrice. Et puis, disons-le, d'une manière générale, encore une fois, pas dans ce contexte-ci, mais d'une manière générale, la tentation politique est quelque chose qui parcourt la justice. Rappelez-vous, quelqu'un tout à l'heure parlait d'un mur. Et que pensez-vous du mur des cons ?
Antoine Garapon, est-ce qu'il
On retrouve une caractéristique supplémentaire sous les propos de Jean-Yves Le Borgne, de cette défiance à l'égard de la justice, cette détestation des juges et ce mépris pour le droit. Je ne vois pas comment un candidat à la magistrature suprême peut être en colère contre les institutions qui sont celles-là même qui expriment la volonté du peuple. On est dans une contradiction majeure. Il me semble que la progression dans notre pays de l'état de droit, il y a le mot droit. Et donc, la naissance d'un véritable gardien, ce que j'ai appelé autrefois la gardien des promesses démocratiques, me semble une excellente chose. Et je ne vois pas de matière à s'en émouvoir. Tout au contraire, moi, personnellement, je m'en réjouis.
L'état de droit, c'est l'application du droit. Nous ne parlons pas. Personne ne désire que le droit ne soit pas appliqué. Au contraire.
Disqualifier les juges.
Disqualifie rien. Je dis que l'hypothèse d'un choix politique, mais de la conscience d'une conséquence politique
Vous instillez le soupçon. Et il me semble que c'est le comble du populisme que de vouloir disqualifier les médiations, qu'il s'agisse des journalistes ou des juges. Nous avons besoin de médiations institutionnelles, nous avons besoin de corps intermédiaires, c'est comme ça que fonctionne une démocratie. Plus on les affaiblit, plus on se rapproche du précipice.
La justice et la presse sont respectables, mais ni l'une ni l'autre ne sont exemple de critique.
Elles peuvent être critiquées.
Bien sûr qu'elles peuvent critiquer, mais en ce qui concerne la justice, il y a des instances pour ça.
Antoine Garapon, Jean-Yves Le Borgne, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Frédéric Becbédé. Il est 9h05. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour vos invités?
Oui, bonjour Jean-Yves Le Borgne et bonjour Antoine Garapon. C'est à vous Antoine que je m'adresse en tant que directeur de la revue Esprit, qui est une revue intéressante parce qu'elle a été fondée au début des années 30, qu'elle est encore un vivier d'intellectuels et on a besoin quand même de la parole de l'intellectuel comme prise de distance. Vous êtes un lecteur de Paul Ricoeur qui a pensé la morale, mais aussi la constance, la permanence dans le temps, la parole tenue, autant de questions qui sont quand même là plus que jamais à l'ordre du jour. De quelle manière est-ce qu'un texte ou un philosophe peut nous aider ici à penser ce qui est en train de se jouer? Antoine Garapon.
Paul Ricoeur insistait beaucoup, il avait d'ailleurs écrit une intervention, sur le fait que les institutions démocratiques sont fragiles. La cité est périssable, il disait. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dans cette attaque contre les institutions, on les suppose peut-être plus solides qu'elles ne sont. Et il me semble que cette idée du fragilité du politique, cette idée d'une insatisfaction permanente de vivre en démocratie, parce que la démocratie est un régime dans lequel on est toujours saisi par le doute, en quelque sorte, par rapport à une société politique qui repose sur un pouvoir transcendant. Il me semble que c'est un moment extraordinairement délicat, notamment pour notre pays comme la France, qui a une tradition politique tout à fait particulière avec ce statocentrisme, avec cette idée d'une société qui a été instituée par l'État. Donc toucher, de s'attaquer trop violemment à l'État, je crois que c'est accentuer cette idée de fragilité, cette idée de périssabilité, comme disait Paul Ricoeur, de la cité.
Merci Antoine Garapon. Je rappelle que vous avez coécrit avec l'Américain Michel Rosenfeld « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global ». C'est paru en octobre dernier au PUF et chez le même éditeur, Jean-Yves Le Borgne. Vous venez de faire paraître « Changer la justice ». C'est paru hier, 1er mars, aux presses universitaires de France. Merci à vous d'avoir participé tous deux à ce débat.